des manifestants appelant à faire la chasse aux étrangers, des saluts hitlériens dans la rue, le meurtre d'un jeune Allemand imputé à un réfugié a déclenché une vague de violences racistes à Chemnitz, ville d'ex-Allemagne de l'Est. Hier, Angela Merkel a déclaré que la haine dans la rue n'avait pas sa place en Allemagne. Ces violences sont-elles le signe d'un réveil de l'extrême droite outre-Rhin ? Bonjour Nicolas Offenstadt, vous êtes historien, maître de conférences à l'université Paris 1. Vous allez faire paraître le 12 septembre prochain le pays disparu sur les traces de la RDA. Y a-t-il justement une spécificité de la RDA en ce domaine ?
Il y a en tous les cas une spécificité de l'Allemagne de l'Est, c'est très clair, hein, puisque c'est là que le parti d'extrême droite, l'AfD, qui siège maintenant au Parlement, a fait les plus hauts scores. Et au sein de l'Allemagne de l'Est, il y a aussi une particularité de la Saxe, puisque les événements dont on parle, les violences dont on parle, sont à Chemnitz, donc une ville de Saxe. Donc on est bien dans une région qui a une spécificité, une tradition très forte en la matière.
Comment expliquer justement que ces événements se déroulent à Chemnitz ? Quelles sont les spécificités de cette ville, Nicolas Offenstadt ?
Alors, il y a d'abord des spécificités politiques. Il y a un milieu d'extrême droite à Chemnitz, hein, qui est très lié, qui est très solidaire. Donc il y a évidemment, comme toujours, un contexte local. Il y a un contexte plus important qui est celui de la Saxe, avec qui, il faut le rappeler quand même, est le berceau de Pegida, hein, ce mouvement anti-islam, anti-immigration. Donc on est quand même dans un lieu, hein, où qui est déjà très chargé. Et puis, il faut rappeler aussi que du point de vue électoral, hein, l'AfD a dépassé, hein, le parti d'Angela Merkel, la CDU, en Saxe. Hein. C'est le premier parti, donc l'extrême droite est le premier parti aujourd'hui, hein, en Saxe. Donc on a affaire à un contexte à la fois local et micro-local qui est très important pour comprendre ce qui se passe. Sachant, en plus, on pourrait même encore élargir le spectre, puisqu'il y a aussi évidemment, hein, une très forte présence, hein, de la droite extrême dans les territoires de l'Est, de l'ex-Allemagne de l'Est.
Alors justement, on a beaucoup dit que en RDA, on n'avait pas fait le travail de mémoire qui a été fait en RFA. Est-ce que ce clivage est pertinent selon vous, Nicolas Offenstadt ?
Non. À mon avis, c'est faux de faire un lien direct. Le lien qui est direct entre les événements et si vous voulez, les partitions géographiques de l'Allemagne et politiques, c'est le fait qu'en réalité, il y a encore, comme on le dit fréquemment, le mur dans les têtes. C'est-à-dire qu'il y a encore deux Allemagnes. Mmh. On a l'impression que depuis l'unification, hein, depuis plus de 25 ans, l'Allemagne est un pays uni, un pays puissant économiquement, un pays plutôt stable jusque récemment politiquement. En réalité, il y a de grosses disparités. Il y a de grosses disparités économiques, symboliques, et notamment l'Allemagne de l'Est, donc l'ex-territoire, le territoire de l'ex-RDA, est un territoire qui est économiquement beaucoup moins privilégié que l'Allemagne de l'Ouest. Vous savez, il y a de gros décalages de salaire, hein, 15-30% entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Le chômage y est beaucoup plus important. Mmh. Et puis aussi, il y a une forme de relégation symbolique. Et les Allemands de l'Est ont parfois l'impression d'être, depuis l'unification, des Allemands de seconde zone. Donc il y a tout un ressentiment, hein, en Allemagne de l'Est, qui est à la fois réel parce que il y a véritablement des différences économiques, mais aussi symboliques, l'impression, hein, qu'on les ramène en quelque sorte à un passé qui aurait été uniquement un passé de soumission à la dictature, qui fait qu'il y a quand même de grosses différences avec ce qui se passe à l'Ouest.
Mais alors pourquoi ? Parce que sur le plan symbolique, justement, par rapport à la mémoire de l'hitlérisme, est-ce qu'il y a une distinction entre l'ex-Allemagne de l'Est et la RFA ?
Oui, il y a beaucoup de distinctions. Il faut rappeler qu'en Allemagne de l'Est, le grand discours, et d'ailleurs qui était suivi de pratiques commémoratives et aussi de pratiques, on pourrait dire, mémorielles, c'était l'antifascisme. Donc quand on dit, bah oui, l'Allemagne de l'Est n'a pas fait le travail de mémoire, c'est pas vrai. Elle l'a fait avec un récit qui était le grand récit de l'Allemagne de l'Est, le grand récit communiste, mais l'antifascisme, donc le contraire quand même de ce qui est en train de se passer, était le grand récit politique de l'Allemagne de l'Est. Hein. On célébrait les héros, alors c'était souvent des héros communistes, il faut bien le dire. Hein. Dans la résistance, on prenait pas tout le monde, c'était pas un travail objectif sur le passé, hein, c'était de la mémoire. Mais l'antifascisme était au cœur du discours, hein, mémoriel. Donc il y a eu énormément de travail. Les camps, les ex-camps de concentration où les violences étaient exercées, soit contre les juifs, soit contre les résistants, étaient mis en valeur. Mais ils étaient mis en valeur dans le grand récit de l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire qu'on avait tendance à beaucoup plus valoriser la résistance communiste que, par exemple, l'extermination des juifs ou d'autres types de violences contre les homosexuels, etc. Donc vous voyez, il y avait évidemment un gros travail de mémoire, un travail colossal de mémoire qui était fait en Allemagne de l'Est, mais il était fait selon les logiques du régime.
Mais alors le racisme en tant que tel, l'antisémitisme, est-ce qu'ils étaient visés par la politique gouvernementale ? Est-ce qu'il y avait une dénonciation en tant que tel ? Ou bien est-ce qu'on expliquait l'antisémitisme ou le racisme comme un sous-produit du capitalisme ?
Bien sûr, hein, c'était évidemment un discours marxiste, communiste, tout à fait classique de ce point de vue-là, où on ne spécifiait pas, quoi qu'il y ait eu des évolutions. Par exemple, dans les années 80, on voit une évolution où la RDA est plus attentive à mettre en avant la diversité des victimes du Troisième Reich, en particulier les Juifs, évidemment, au premier chef. Donc il y a des évolutions pendant toute l'Allemagne, toute l'histoire de l'Allemagne de l'Est qui n'a pas un discours équivalent à tous les moments. Mais il faut rappeler aussi quelque chose, c'est qu'il y a une ambiguïté. On dit finalement, l'Allemagne de l'Est était quand même assez réticente aux étrangers, il y avait peu d'étrangers sur son sol. Oui et non, parce qu'en réalité, le grand discours, on s'en souvient, des pays de l'Est, c'était la solidarité internationale. Donc si on considère que les gens de l'Allemagne de l'Est étaient socialisés par l'Allemagne de l'Est et ont cru à ces discours, ils ont dû croire à deux discours, l'antifascisme, qui était fondamental, et la solidarité internationale. Donc vous voyez, le lien ne peut pas être direct entre un discours de RDA et les violences de l'extrême droite aujourd'hui. Alors, il y a une autre explication qui est donnée par certains intellectuels allemands, c'est de dire oui, mais ça forme des personnalités autoritaires. Donc du coup, quand on a été soumis à un régime autoritaire, eh ben du coup, on a des comportements différents. J'avoue que c'est pas très convaincant parce qu'évidemment, les gens ne sont pas toujours des acteurs passifs de ce qu'on leur livre.
Autre chose qui ne va probablement pas vous convaincre en tant qu'historien, Nicolas Offenstadt, est ceux qui font référence à une situation comparable à celle de la République de Weimar. Bref, une situation pré-fasciste, qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une comparaison qui sert à rien. Qui sert à rien directement, hein, parce que évidemment l'Allemagne de Weimar était beaucoup plus fragile sur bien des points de l'Allemagne d'aujourd'hui. Les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Donc que l'histoire de la République de Weimar rende attentif hein, à toute forme de poussée de l'extrême droite, à toute forme de division de la gauche, je veux bien. Hein, mais comparaison n'est pas raison. Et en l'occurrence, je crois que les conjonctures étaient très différentes, et aussi en termes économiques. Hein. Il faut voir que c'est la sortie de la Première Guerre mondiale, la République de Weimar. Ça a été une inflation terrible, une situation économique terrible. D'abord avec la crise du début des années 20, puis ensuite avec la crise de 1929. Donc je crois que la comparaison ne nous aiderait pas à comprendre la situation d'aujourd'hui.
Donc, il y a matière à espérer, et selon vous, je renvoie à votre livre, Nicolas Offenstadt, Le pays disparu sur les traces de la RDA. Il paraîtra le 12 septembre prochain aux éditions Stock. Merci d'avoir été avec nous ce matin, 7h20 sur France Culture.